Mon environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de Dame Nature. Mon environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de la voix du parlementaire, la 107.5 FM. Bienvenue dans votre émission Mon Environnement et nous vous remercions de nous rejoindre pour une nouvelle réflexion autour des grands enjeux écologiques qui concernent notre pays. Au programme de cette édition, un thème essentiel, éthique environnementale en Guinée. Un concept encore peu exploré, mais pourtant déterminant pour l'avenir de nos ressources naturelles, la gouvernance environnementale et le bien-être des générations futures. Pour vous parler de ce thème, nous avons l'honneur de recevoir M. Yonga Doré. Il est directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est également auteur du livre « L'éthique environnementale en Guinée, comprendre pour mieux protéger la nature ». Il va donc nous éclairer sur la portée de l'éthique environnementale, sur ses implications pour la Guinée, ainsi que sur les pistes des solutions et les réformes qu'elle pourrait inspirer. À la technique Daouda Sangaré, au micro pour la présentation, Sano Sekou Cheikh.
Mon environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de Dame Nature. Mon environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.
Vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire, la 107.5 FM. Comme annoncé, nous recevons pour vous M. Yonga Doré. Je vous rappelle qu'il est directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est également auteur du livre « L'éthique environnementale en Guinée, comprendre pour mieux protéger la nature ». Sans transition, bonsoir Monsieur Doré.
Bonsoir Monsieur.
Merci d'être venu dans cette émission.
Merci beaucoup.
Voilà, Monsieur Doré, vous êtes directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée. Bien avant, dites-nous comment vous êtes venu dans le secteur environnemental.
Bon, vous le savez, dans le secteur de l'environnement, et avant je ne pensais pas faire de l'environnement.
Okay.
Et dès le départ, j'étais diplômé, j'ai suivi mon cours, après mon concours à l'université, j'étais orienté à l'université de Cancan.
Okay.
Où j'ai fait les mathématiques.
Okay.
Après ma maîtrise de mathématiques, et j'ai commencé à enseigner dans les écoles.
Okay.
Et à l'issue du concours d'intégration à la fonction publique, et j'ai été orienté au ministère de l'Environnement.
Okay.
Et c'est comme ça que j'ai pris le goût et maintenant je me suis intéressé à l'environnement. Et je suis allé à Dakar pour aller faire mon master en management de l'environnement et de développement durable, où j'ai été formé sur les questions environnementales.
Okay.
Ou même j'ai suivi des cours sur l'éthique environnementale.
Okay.
Qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est pourquoi je suis là, si je suis là aujourd'hui pour ce livre, c'est à cause de tout.
Voilà, Monsieur Yonga Doré, DGA du BSD, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Yonga Doré, vous êtes auteur du livre « L'éthique environnementale en Guinée, comprendre pour mieux protéger la nature ». Qu'entendons exactement par éthique environnementale?
Bon, et avant de vous répondre, il faut savoir que l'éthique environnementale,
ouais,
c'est une notion, elle est nouvelle.
Ouais.
C'est une discipline nouvelle chez nous en Guinée.
Tout à fait.
Mais elle a son origine depuis l'Égypte antique.
Okay.
Et en Égypte antique, l'éthique environnementale était là-bas, mais les gens ne comprenaient pas.
Okay.
Et à l'époque, on appelait ça malthique. Malthique, ça veut dire que c'est un principe. Comment l'homme doit faire pour vivre,
okay,
protéger la nature.
Okay.
Et cela est remonté, elle est devenue une nouvelle science.
Okay.
Et c'est une discipline philosophique.
Okay.
Et cette discipline philosophique, désigne l'ensemble des valeurs, les principes et les responsabilités qui guident notre rapport avec la nature. Et c'est une question de responsabilité. Et l'éthique environnementale nous permet de poser des questions essentielles. Quelles sont notre responsabilité face à la nature? Quelle est notre responsabilité envers les eaux? Quelle est notre responsabilité envers nos rivières? Quelle est notre responsabilité envers la forêt? Ce sont les questions essentielles que l'éthique environnementale nous pose. Et lorsque elle nous pose cette question, c'est à nous de réfléchir, nous les hommes, de comprendre pourquoi allons-nous faire pour protéger cette nature. Et elle aussi, elle va très loin. Elle nous pose la question, comment nous allons faire pour protéger la génération future. Par l'éthique environnementale, elle ne s'appelle pas aujourd'hui. Elle vise loin. Elle vise les générations futures. Nous faisons aujourd'hui pour cette génération future. Et vous devez savoir aussi que l'éthique environnementale aussi, nos parents. C'est pourquoi dans mon livre, vous avez les contes. Je suis parti des contes. J'explique à partir des contes. Et vous allez voir l'éthique environnementale, elle s'est bien avant en Guinée. Parce que, regardez, quand on partait en forêt, on voit une forêt qui est là, on dit ne rentre pas là. On est dans notre langue en Kono, on dit Zoro, on dit ça, c'est cette forêt-là, ne rentre pas là, ça fait peur, il y a le diable là.
La forêt sacrée.
La forêt sacrée, ne rentre pas là-bas.
Okay.
Donc l'éthique environnementale là, elle te protège cette forêt.
Oui.
Et quand on partait en Haute-Guinée, on dit c'est le Baba, Guinéen. On dit Guinéen. Donc on protégeait à l'époque.
Il y a les mares même.
Les mares. Donc les mares étaient protégées, mais cette éthique était là.
Oui.
C'est pourquoi, si vous me mon livre, je suis parti de nos ancêtres et on peut jumeler ce que nous avons fait et la vie actuelle.
Voilà, votre livre, L'éthique environnementale en Guinée, comprendre pour mieux protéger la nature. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage?
D'abord, ma motivation est partie depuis Dakar.
Ok.
Quand j'ai fait mon master à Dakar, le projet de l'éthique environnementale a été dans un cours comment protéger réellement la nature.
Okay.
Et maintenant, tu es Guinéen, il dit oui, c'est Guinéen. Il dit chez vous, j'étais chez vous en Guinée. J'ai beaucoup de forêts, vous avez toutes les ressources, mais il y a un problème de gestion de vos ressources. Et ça m'a touché. Et quand je suis venu en Guinée, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays?
Étant donné la protection de la nature.
Étant donné que je suis au BSD, et quand on parle du BSD, c'est la stratégie, la réflexion.
Tout à fait.
C'est la réflexion que nous faisons au BSD, nous faisons des stratégies et nous réfléchissons.
Oui.
Et j'ai commencé à analyser. Étant donné, mais ce n'est pas la première fois que j'écris, c'est quand j'étais au lycée, j'avais commencé à écrire. Mais je n'étais pas encore soutenu. J'ai écrit deux livres que j'ai écrits quand j'étais au lycée.
Mais qui ne sont pas édités ou quoi?
Ils n'ont pas été édités. À l'époque, je n'avais pas de soutien. Je n'avais pas de soutien. Au lycée, en terminale, j'en ai écrit un livre. Et quand j'étais à l'université, j'en ai écrit. Mais je n'avais pas de soutien.
Donc vous avez ces manuscrits?
J'ai perdu tous ces manuscrits. Parce que je n'avais pas de soutien.
Oui, malheureusement.
Je n'avais pas de soutien. Et quand je suis venu ici, maintenant, j'ai commencé à travailler quand j'étais au Bessama. Donc l'opportunité d'écrire. Et étant donné, quand j'ai écrit, et Dieu merci, je vais remercier à l'Armatan. Et quand j'ai écrit, quand j'ai L'Armatan directement, l'Armatan a pris ce livre.
Oui, ils ont validé.
Et le livre a été validé. Ça a été lu d'abord. Il faut savoir que l'Armatan, pas commentaire, mais on ne peut pas valider un livre sans que le livre soit bien lu.
Oui.
Quand le livre est bien lu, c'est OK, et il peut mettre les visas sur ce livre.
Tout à fait.
Et c'est pourquoi c'est ça qui m'a motivé à parler. Quand la motivation est à partir de Dakar, et quand je suis venu chez moi en Guinée, j'ai commencé à constater, depuis ce que nous avons fait en cours à l'université, quand je suis venu, j'ai commencé à constater. Regardez comment on peut aller à l'intérieur du pays. Vous voyez les grandes forêts que vous voyez, tout est détruit. Les mares que vous voyez, l'eau, on ne voit plus d'eau. Regardez nos montagnes. Les montagnes, on ne comprend plus rien. Et quand on partait en Haute-Guinée, quand on partait dans les sociétés, dans les mines, vous voyez que les gens, tout est à ciel ouvert. Et quand on partait en forêt, quand on parlait en forêt, il n'y a plus de forêt maintenant. Les gens détruisent la forêt et les gens coupent les gens abattent les arbres sans réfléchir. Alors que l'éthique environnementale nous permet de repenser tout cela. Et c'est tout ça qui m'a motivé à écrire pour apporter quelque chose à mon pays, une sensibilisation.
Alors, vous avez écrit ce livre, L'éthique environnementale, et pourquoi ce concept est-il crucial pour la Guinée selon vous, puisque vous avez dit tout à l'heure que en suivant vos cours au niveau de Dakar dans le cadre du master, votre professeur a dit que la Guinée est riche en ressources naturelles, mais malheureusement la protection fait défaut. Et voilà, selon vous, pourquoi ce concept est-il crucial pour la Guinée?
Et ce concept est vraiment crucial pour la Guinée parce qu'il faut une démarche éthique. Parce que sans l'éthique, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tout, Mais si nous mettons l'éthique devant, nous pourrons gérer bien nos ressources. Parce qu'il parle de l'éthique, parle de la transparence. Parle de la justice. Et quand il y a une justice, il y a une transparence, il y a une transparence dans nos ressources, et il y a une justice de la répartition de nos ressources, et nous pouvons aller de l'avant. C'est pourquoi cela est crucial pour nous, pour que l'éthique, la démarche éthique soit instaurée en Guinée. C'est ça le concept essentiel.
Voilà, c'est ça le concept essentiel. La Guinée dispose d'importantes ressources naturelles. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis éthiques liés à leur exploitation?
Merci beaucoup. Et pour les principaux défis éthiques, nous avons trois défis essentiels. D'abord, le premier défi, c'est la justice. Et cette justice, nous devons comment s'assurer que les bénéfices que nous profitons de nos ressources-là soient partagés équitablement à la population. Et le deuxième défi, c'est la transparence. Et cette transparence qui peut être transparente pour nos ressources, l'exploitation doit se faire dans un cadre clair et contrôlé. Et lorsque il y a la transparence
des ressources naturelles,
on doit le faire dans une transparence. Et quand c'est transparent et les gens sont informés, et ça peut créer des conflits. Et c'est là que les gens seront au courant qu'on a très travaillé. Il faut que tout soit un travail dans la transparence. Et le troisième défi, c'est la préservation. Que toutes les activités doivent être intégrées dans la restauration. Et il faut que nous puissions restaurer nos forêts, tout ce qui a été détruit, nous puissions restaurer ça. Et lorsque nous résolvons ces trois défis, ça veut dire que nous pourrons aller de l'avant pour le développement de notre pays sur le plan environnemental.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Mon Environnement. Le thème, c'est l'éthique environnementale et nous recevons pour vous Monsieur Dionga Doré. Il est auteur d'un livre intitulé L'éthique environnementale en Guinée. Monsieur Doré, dans quelle mesure l'éthique environnementale peut-elle devenir un outil de gouvernance pour lutter contre la déforestation, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, la pollution et l'exploitation abusive des terres?
Non, tout cela est simple. Comme je l'ai si bien dit, il faut les principes éthiques. Si les principes éthiques sont dans nos politiques publiques, il est plus facile pour nous, pour que notre l'éthique environnementale peut devenir un outil, de gouvernance. Il faut l'instaurer dans nos cultures et l'instaurer dans notre politique publique. Si cela est instauré dans notre politique publique, cela part de l'avant et là, tout le monde sait.
Mais puisque vous êtes au niveau du bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Environnement, est-ce que ces propositions-là sont mises à la disposition des décideurs du département pour que vraiment les dispositions idoines soient prises pour la préservation de notre écosystème?
Oui, d'abord, comme je vous ai aussi bien dit, d'abord, nous avons dit à l'entente de notre émission, on a dit que l'éthique environnementale, elle est une discipline qui est nouvelle chez nous en Guinée.
Tout à fait.
Et c'est la première des choses d'abord, c'est de toucher l'éducation. Et lorsque nous allons passer mon combat, c'est de me battre pour que cette discipline soit dans le curriculum de notre pays. Et à partir de l'enseignement supérieur, si on prend comme des modules nous enseignons, sera un grand pas. Et si ce sera un module qui sera enseigné dans les universités, dans nos grandes écoles, et à partir de là, nous allons commencer à vulgariser cela. C'est pourquoi le document l'éthique environnementale, après, bientôt, nous allons passer dans les universités.
Pour
sa vulgarisation dans les universités, dans les grandes universités, et dans les institutions, même au Parlement, et nous allons passer pour échanger.
Tout à fait. Vous êtes en train de vulgariser comme ça au Parlement.
Évidemment.
Les honorables conseillers, les travailleurs parlementaires sont à l'écoute de cette émission.
Et parce que c'est les nouvelles encore. Il faut que cela soit enseigné, l'éthique environnementale. Et tout ce que nous faisons dans la vie, c'est il faut une éthique. Et l'éthique environnementale, lorsque l'éthique vient sur la
tout le monde est concerné par.
Tout le monde est concerné. C'est pourquoi le livre que j'ai écrit, ce n'est pas un livre uniquement pour les universités. C'est un livre pour tout le public.
C'est un livre
pour
la vie.
Pour tout le public.
Oui.
C'est ça l'importance. La plus grande chose, là, c'est qui est important, c'est ça dans les politiques publiques. C'est de ce document.
Alors, à votre avis, quelles sont les pratiques actuelles en Guinée qui s'éloignent des principes éthiques environnementaux?
Ces pratiques sont énormes. Et nous avons la coupe illégale des bois. Et les gens, lorsque les gens font la coupe illégale, c'est pas normal. Et l'exploitation minière artisanale, sans mesure.
Cette coupe illégale, vous ne trouvez pas une responsabilité du département en charge de l'environnement et d'autres départements concernés? Puisque ce sont les départements qui livrent les licences de coupe.
Oui, le département peut délivrer.
Okay.
Nous avons le ministère de l'Environnement se bat sur le terrain.
Okay.
Vous savez, même vous battez toujours, il y a des gens qui sont des gens qui se cachent.
Ouais.
Il y a toujours dans un groupe.
Oui.
Il y a toujours des brebis galeuses qui sont là.
Okay.
Même chez nous, à l'environnement, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris.
Okay.
Mais l'État, le département se bat.
Ouais.
Le département se bat à l'intérieur du pays. Pour ça. C'est pourquoi il y a les documents de stratégie, c'est pourquoi il y a les patrouilles dans toutes nos forêts à l'intérieur du pays. L'État se bat à travers le ministère de l'Environnement, se bat.
Okay.
Mais il y a toujours des gens qui sont là, mais l'État se bat toujours.
Okay. Après cette coupe illégale, vous avez dit qu'il y en a plusieurs, oui.
Oui, bon, certains, et quand on parle dans nos mines, par exemple, okay. Les mines non contrôlées, les gens qui font des mines non contrôlées, les certains minières non contrôlées aussi, okay. Ça fait partie aussi.
L'exploitation artisanale du
nord, qui n'est pas
dépoise l'environnement,
qui dégrade l'environnement,
la terre,
tout ça là.
Oui.
Et aussi, il y a la mauvaise gestion des déchets.
Ah,
et
okay.
La mauvaise, parce que quand on parle de terre, c'est pas seulement à la forêt.
Oui.
Il y a la mauvaise gestion des déchets.
Mais c'est tout à Conakry.
À Conakry, regardez, à Conakry, partout, il y a les mauvaises. L'État se bat,
okay.
À travers le ministère d'Aménagement du territoire, les gens se battent.
Oui.
L'État se bat.
Actuellement, l'assainissement se trouve au niveau du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Voilà.
C'est pourquoi il y a une grande direction générale qui a été créée pour
ça.
Pour aider le pays à aller de l'avant.
L'ANASPE,
pour se battre, pour que chacun de ce côté se bat.
Mm-hmm.
Il faut reconnaître que l'État est en train de déployer beaucoup de moyens par rapport à tout cela pour cadrer cela.
Ok. Voilà, donc c'est après la coupe abusive de l'exploitation anarchique des mines,
la mauvaise gestion des déchets,
voilà, donc ce sont des principes qui s'éloignent de l'éthique environnementale.
Oui.
Voilà, monsieur Doré, l'ouvrage évoque-t-il des solutions concrètes ou des modèles inspirants pouvant guider les décideurs que vous êtes et les citoyens, puisque vous êtes dans un département stratégique qui est le ministère de l'Environnement et qui est réellement chargé de la protection de l'environnement.
Oui, c'est pourquoi quand vous êtes dans mon ouvrage,
oui.
Il y a des expériences.
Okay.
Et je sais pas, il y a une expérience même qui concerne même quand on partait le Rwanda par exemple.
Yes.
C'est l'un des exemples aussi au Rwanda où les gens, où le reboisement est là et les gens suivent de près. Et là-bas, c'est un des modèles.
Okay.
Aussi. Et aussi dans ce document, c'est pourquoi dans le document j'ai mis beaucoup de modèles qui vont permettre à nos décideurs,
okay.
De l'appliquer chez nous en Guinée.
Mm-hmm.
De l'appliquer chez nous en Guinée,
okay.
Pour que l'éthique environnementale puisse avoir jour et que les gens puissent comprendre les équipes, comprendre réellement c'est quoi l'éthique environnementale.
Okay.
Parce que tant que ce n'est pas mis dans les politiques publiques, ça sera difficile.
Okay.
C'est pourquoi les modèles que j'ai mis dans le livre, ça va permettre à nos décideurs de prendre des mesures adéquates pour que l'éthique environnementale puisse être en Guinée,
okay.
pour que nous puissions bien préserver nos ressources qui sont avec nous. Parce que les ressources que nous gérons aujourd'hui, ces ressources que nous voulons en préserver aujourd'hui, c'est pas pour nous aujourd'hui,
mm-hmm.
C'est pour la génération future.
Okay.
C'est ça l'éthique environnementale. Nous ne faisons pas pour nous, mais pour cette génération future.
Pour la génération future.
Parce que si nos parents n'avaient pas bien géré ces forêts, que serons-nous aujourd'hui?
Non.
Voulons-nous être des réfugiés climatiques? Non. C'est pourquoi l'État est en train de se battre. L'État est en train de mettre tous les moyens à travers le ministère de l'Environnement pour que nous puissions bien protéger nos ressources. Et quand nos ressources seront bien gérées, à travers les différentes études, avec les différents principes éthiques, notre pays pourra aller de l'avant.
Voilà, M. Doré, chaque année, l'État déploie des moyens pour les campagnes de reboisement. Quelle analyse faites-vous de ces différentes campagnes qui se font chaque année et dès que la saison des pluies commence en Guinée, c'est la campagne de reboisement. Nous voyons l'État, les ONG, toutes les structures sont mobilisées pour la campagne nationale de reboisement. Quelle analyse faites-vous de cette campagne? Puisque nous avons l'impression que il n'y a pas tellement d'effets sur la restauration de l'écosystème forestier.
Non, vous ne pouvez pas le comprendre parce qu'on a essayé d'un incident, vous ne pouvez pas le comprendre. Quand vous partez sur le terrain, vous allez comprendre.
Oui, mais
moi, je suis au BSD.
Nous sommes du terrain.
Et nous avons des rapports.
Okay.
Vous pouvez venir, nous avons des rapports au BSD. Nous avons le rapport. Chaque année, nous faisons le rapport.
Okay.
Le rapport sur le reboisement.
Okay.
Tous les rapports sont disponibles. Vous pouvez le voir. L'État, c'est le ministère de l'Environnement, déploie beaucoup de moyens.
Oui.
Avant, c'était seulement le ministère à travers le service technique. et nous avons mis une nouvelle réforme où on a impliqué les ONG.
Les ONG.
Et c'est pourquoi, la plupart me donnent aux ONG, parce que nous-mêmes, on ne peut pas donner l'argent nous-mêmes sur le terrain. C'est pourquoi il y a beaucoup de réformes au ministère de l'Environnement. C'est pourquoi nous avons impliqué beaucoup les ONG sur le terrain. Et quand vous partez sur le terrain, les ONG sont reboisés. Tout d'un moment, j'ai vu une évaluation. J'ai vu les jeunes travailler.
Okay.
Pourquoi vous devez comprendre que le reboisement, les plans, c'est pas vous plantez, les gens pensent que quand nous plantons, c'est le même jour. Non, il y a un suivi. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement, une fois qu'on donne l'argent aux jeunes de palais reboisés, il y a le contrat est là. Il y a un délai de contrat qui est là. Il y a aussi, lorsqu'ils plantent, il y a le suivi. Et c'est en fonction de ça, c'est pourquoi généralement, quand ils viennent, on donne une partie des reliquats, ils vont sur le terrain, ils reboisent. Et après, nous partons faire l'évaluation.
Okay.
Et quand c'est OK, on le paye les reliquats. Si ce n'est pas OK, celui qui n'a pas atteint les 95%, on ne le paye pas.
Okay.
C'est pourquoi l'État suit de près, à travers le ministère de l'Environnement, nous suivons très près le reboisement que nous faisons. Sur le terrain, quand vous partez, il y a des plans. Mais vous savez, toute activité humaine, il y a toujours des différences. Mmh. On peut planter plus de 2000 arbres. Ou de 2000 plans.
Oui.
Il y a d'autres qui peuvent, grandir, d'autres ne grandissent pas.
Okay.
Mais c'est pourquoi nous faisons le suivi.
Oui, ce suivi-là, je crois que ça, c'est une nouveauté, puisque les premières années de cette campagne de reboisement, il n'y avait pas de suivi. Les ONG étaient recrutées aussi, selon les relations dans les collectivités. Mais actuellement, comme vous le dites, il y a un suivi, puisque si vous donnez tout le montant à une ONG liée à ces projets de reboisement, je pense que ça serait très difficile de les suivre, puisque après il y a des ONG qui quittent ici même à Conakry pour aller reboiser jusqu'à l'intérieur du pays.
Non.
C'est possible, c'est possible, ça s'est fait. Je suis dans ce secteur là, ça fait un peu longtemps, et nous avons des rétroviseurs un peu partout. Nous travaillons aussi avec des ONG. Il y a des ONG qui quittent Conakry pour aller reboiser à l'intérieur du pays. Maintenant, comme vous avez mis déjà une stratégie de contrôle et de suivi, certainement ça pourrait aboutir. Sinon, avant, il n'y avait pas tellement de contrôle. Les ONG recevaient leur argent et puis après le reboisement, là, il n'y a plus de suivi, puisqu'il ne s'agit pas de reboiser. Mais après le reboisement, il faut un suivi. Est-ce que ces plans que vous avez mis en terre, est-ce que ces plans ont donné? Quels sont ces plans qu'il faut remplacer? Tout cela, je pense qu'avec le suivi mis en place actuellement au niveau du ministère de l'Environnement, ça va donner encore de l'avantage,
oui,
d'engouement et de résultats sur ces campagnes de
reboisement. C'est pourquoi Madame la ministre, elle est ferme là-dessus.
Okay.
Madame la ministre de l'Environnement, elle est tellement ferme là-dessus par rapport à ces reboisements. Et elle tient. C'est pourquoi, généralement, lorsqu'on veut recruter les ONG,
okay,
on voit d'abord les récépissés. Est-ce que les récépissés des ONG sont à jour?
Okay.
Et puis, pour prendre une ONG, on voit d'abord ses activités.
Ouais.
Est-ce que cette ONG fait des activités?
Ouais.
Parce que souvent, en Guinée, les gens créent des ONG fantômes.
Ouais.
Mais au ministère de l'Environnement, Madame la ministre a été ferme.
Les premières éditions, là, en 2019, il y a eu assez de votre ONG fantôme.
C'est pourquoi Madame
a été créée pour la circonstance.
C'est pourquoi Madame la ministre de l'Environnement, elle est vraiment ferme là-dessus.
Okay.
Et les jeunes qui sont choisis, c'est le contenu local. Ils sont choisis dans les préfectures.
Okay.
C'est pourquoi elle-même suit de près. C'est pourquoi au BSD, nous remontons les informations.
Okay.
Elle suit de près. C'est pourquoi cette année était difficile. Des années antérieures et actuellement, il y a une grande différence.
Okay.
Depuis son arrivée, elle a mis des principes vraiment. On ne parle pas de jeunes n'importe comment. Et on prend les jeunes qui sont capables, qui peuvent reboiser. C'est comme ça que nous travaillons.
Voilà, vous dites que le beau reboisement s'est fait dans les collectivités. Avec les collectivités, c'est pour le contenu local. Alors, comment l'éthique environnementale peut-elle renforcer l'action des collectivités locales dans la gestion durable des ressources naturelles?
Oui, les collectivités d'abord sont les premières lignes d'abord.
Ouais.
Il faut savoir qu'une approche éthique leur permet de prioriser la protection des ressources, d'impliquer les communautés, c'est de faire respecter les règles environnementales adaptées.
Okay.
Parce que sans, c'est que, par exemple, les collectivités, c'est eux-mêmes les gardiens de la forêt.
Oui.
Par exemple, les collectivités, eux-mêmes qui sont à la base, c'est eux qui sont à la source.
Oui.
C'est pourquoi la plupart des choses, nous devons les renforcer.
Il faut les impliquer.
On les implique. C'est pourquoi le reboisement, c'est la campagne de reboisement que nous faisons, nous impliquons.
Oui.
Alors, lorsque vous n'impliquez pas la communauté,
oui,
ça ne marchera pas.
Oui.
Si vous voyez que les plans, la plupart des plans donnent, et lorsque nous reboisons, parce que les communautés sont là, ils sont impliqués.
Ouais.
Parce que si vous prenez les gens à Conakry, dans une ville, les zones, vous les déposez sans impliquer la population, ça ne marchera pas.
Après,
c'est pourquoi nous impliquons la communauté.
Okay.
Et lorsque nous comprenons la communauté, avec l'éthique environnementale, il faut renforcer cette communauté à travers les formations, le renforcement des capacités, et afin que la communauté puisse connaître ses
Donc il ne s'agit pas seulement d'aller faire de le reboisement, mais il faut aussi former, il faut sensibiliser la population, les citoyens à l'éthique environnementale.
Et effectivement.
Okay.
Et lorsque les populations seront informées, sensibilisées, ils vont comprendre l'importance. Parce que l'éthique environnementale, elle est très, très importante.
Okay.
C'est l'amour.
Ouais.
L'éthique environnementale permet de voir. Est-ce qu'il faut voir, parce que la nature que Dieu nous a donnée,
ouais.
pourquoi détruire cette nature
ouais.
Et si nous détruisons cette nature, où allons-nous?
Puisque notre vie
en dépend.
Oui.
Et ça soit les ressources, toutes ces ressources-là, les médicaments
ouais.
dans les villages,
ouais.
les feuilles que nous mangeons,
ouais.
les que tout provient de la forêt.
Ouais.
Et si nous devons nous allons partout, où
ouais.
C'est pourquoi l'éthique environnementale est très importante. L'éthique environnementale est très, très, très importante dans la vie d'une nation.
Voilà.
Elle nous permet d'avoir l'amour même de la nature.
Okay.
Et quand tu as l'amour de quelque chose, tu vas la préserver, tu ne vas pas la détruire. C'est ça l'éthique environnementale.
C'est ça l'éthique environnementale. Vous êtes toujours dans votre émission Mon Environnement. Et je vous rappelle que nous avons comme invité M. Yonga Doré pour parler de l'éthique environnementale en Guinée. Il est auteur d'un livre intitulé également L'éthique environnementale en Guinée. Comprendre pour mieux protéger de la nature. Monsieur Yonga, vous avez parlé tout à l'heure là, de l'éducation, de la santé. Alors, quel rôle l'éducation et la sensibilisation jouent-elles dans la construction d'une conscience écologique nationale?
Il faut le savoir que d'abord, quand on parle de l'éducation et la sensibilisation, d'abord c'est la base de tout.
Ouais.
Sans la conscience écologique, aucune politique ne tient.
Okay.
L'éducation permet d'installer durablement les comportements responsables,
okay.
d'aider les jeunes à saisir ces enjeux et de créer une culture nationale
okay.
de respect de l'environnement. C'est un investissement pour plusieurs générations.
Okay.
Et que c'est normal. Sans l'éducation et la sensibilisation.
Comment on peut créer cette culture nationale axée sur l'environnement?
Non. C'est simple. Parce que d'abord, nous avons en cours actuellement au ministère de l'Environnement, on est en train de réfléchir, on est en train d'écrire actuellement, il y a sur l'éducation environnementale.
Okay.
On est en train de créer une stratégie sur l'éducation environnementale qui est en cours, on est en train de travailler là-dessus.
Okay.
Et cette éducation environnementale.
Vous êtes en train d'analyser sur la création d'un manuel éducatif.
Effectivement,
okay.
tout est en train de réfléchir par rapport à ça. Le ministère travaille par rapport à ça. Ça est même dans notre PAO aussi, notre plan d'action annuel.
Okay.
Ça est dans ça.
Okay.
Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça et ça est en cours déjà.
Okay.
Et ça, vous devez comprendre que la sensibilisation et l'éducation sont très très importants pour une nation.
Okay.
Parce que nous sommes avec les enjeux environnementaux.
Ouais.
Il faut une éducation.
Ouais.
Il faut la sensibilisation. Parce que si on n'arrive pas à sensibiliser nos populations, à sensibiliser nos concitoyens, nous risquons de tout perdre.
Ouais.
Et si nous perdons nos forêts, nous perdons nos eaux, nous perdons tout, les montagnes, où allons-nous?
Ce serait très difficile.
Ce serait très difficile.
Ah, oui.
Nous ne voulons pas être des réfugiés climatiques. Nous ne voulons pas quitter en Guinée, c'est pas dans d'autres pays.
Mm-hmm.
Alors que Dieu a tout donné à la Guinée. La seule chose qu'il faut, il faut la préserver. En la préservant, il faut l'expliquer. C'est quoi l'environnement? Mais beaucoup ne savent pas. D'autres pensent que l'environnement, les ressources, d'autres pensent que les résultats sont là. Il faut doter ces ressources. D'autres pensent que les ressources, l'environnement, la nature est un très simple décor. Non.
Donc vous voulez dire qu'il faut penser à la création des programmes spécialement liés à l'environnement, à la protection de l'environnement?
Non, les programmes sont là déjà, c'est un problème de renforcement.
Okay.
Les programmes sont là déjà, c'est un problème de renforcement.
Je vais parler, puisque quand on parle d'éducation environnementale, il faut partir à la base.
Bien sûr.
De l'école primaire au collège,
effectivement,
au lycée, pas seulement à l'université qu'il faut enseigner, faire l'éducation environnementale, mais il faut partir de la base au sommet. Pour faire comprendre à nos petits-enfants, même puisqu'on fait des cours de l'éducation civique et morale, certainement avec ces programmes d'éducation environnementale, on peut enseigner à nos plus petits-enfants comment il faut préserver, pourquoi et comment il faut préserver l'environnement.
C'est pourquoi dans mon livre, il y a un des chapitres
okay.
qui parle uniquement de ça,
okay.
de commencer à former les enfants à partir de l'école primaire.
Ah, voilà.
C'est quoi dans ce livre?
Oui.
Dans ce livre, j'ai une partie essentielle il y a un chapitre même qui concerne cette partie, okay, sur l'éducation, la formation des enfants à partir de la base. Okay. Et si à partir de l'école primaire, à partir de la maths, les enfants comprennent c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'éthique environnementale, comment prendre la main. Quand l'enfant grandit avec ça, il ne va jamais se détourner de ça. Et il va essayer de protéger cette nature. Et prenant soin de cette nature. Parce que ce que nous faisons, quand l'éthique environnementale ne s'adresse pas seulement à la génération présente, mais elle vise la génération future. Parce que quand nous préservons, nous donnons une culture environnementale à nos enfants, à nos parents au village, ils vont grandir avec ça.
Enseigner le civisme,
le civisme sur l'environnement. C'est très important. Et si c'est, les gens vont commencer à protéger, personne ne va se mettre à détruire la nature. Même si une personne va commencer à battre un arbre, pourquoi tu abats cet arbre-là? Et pour abattre, il faut demander l'autorisation du ministère de l'Environnement pour abattre cet arbre-là. Et les gens de cette culture vont nous permettre de protéger la nature, et protéger nos forêts, et protéger nos eaux, protéger nos rivières. Pourquoi, quand on va dans nos villages, il y a les rivières qui ont tari?
Plusieurs rivières maintenant.
Hein. On n'en trouve plus.
Oui.
On en trouve même chez moi à Lola. Derrière chez moi à Lola, quand on partait, il y a un marico qu'on appelle Flyer. J'étais pas tout de même, j'ai vu, c'est complètement tari. Quand on partait, quand on était enfant, on partait se laver là-bas. On lavait les habits là-bas. Mais maintenant, tout a tari parce que les gens n'ont rien compris. D'autres même viennent même former des briques dans cette rivière. Et quand vous faites détruire cette rivière, alors que cette rivière, vous avez des animaux, vous avez du poisson et tout ça là. Si l'eau est gérée, c'est très bon pour nous.
Certainement, quand vous présentez ces livres aux autorités actuelles qui ont réellement la volonté de protection de l'environnement, puisque nous avons vu même le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui est descendu même pour l'assainissement avant le lancement des journées d'assainissement décrétées les premiers samedis de chaque mois. Je crois que c'est le président même qui a donné l'exemple. Lui-même, il est allé descendre sur le terrain, il a pris la pelle et les brouettes pour dégager les ordures au niveau des îles de Kassa. Je pense qu'avec un bon suivi, votre document-là sera bien vulgarisé au niveau de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos universités, pourquoi pas dans les services même. Il faut chercher à vulgariser, comme vous avez dit, vous allez passer ici au Parlement pour pouvoir vulgariser, puisque le Parlement aussi, c'est l'une des voies de vulgarisation massive à travers les conseillers. Une fois que les conseillers ont une copie de ces livres-là, je pense que ça pourra permettre à plusieurs personnes de savoir c'est quoi l'éthique environnementale, qu'est-ce qu'il faut pour l'éthique environnementale et comment vulgariser cette éthique environnementale. Vous êtes toujours dans votre émission Mon Environnement. Le thème, c'est l'éthique environnementale. Notre invité, c'est M. Dionga Doré. Je vous rappelle qu'il est directeur adjoint du BSD, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Doré, comment les entreprises minières et industrielles qui foisonnent peuvent-elles intégrer des principes d'éthique dans leur opération en Guinée? Puisqu'on a parlé tout à l'heure là de l'exploitation anarchique de nos ressources minières et même l'exploitation industrielle, nous voyons le foisonnement minéral avec l'utilisation des sacs à plastique. Tout cela, c'est pour la destruction, la pollution de l'environnement. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut?
Bon, ce qu'il faut, c'est le plus important.
Comment peuvent-elles intégrer des principes d'éthique dans leur opération en Guinée?
C'est plus simple. Ces entreprises peuvent commencer d'abord à évaluer leur propre impact.
Okay.
Parce que lorsqu'ils évaluent leur propre impact, ils peuvent comprendre.
Ouais.
Parce qu'eux-mêmes savent, s'ils évaluent leur propre impact, si l'impact est négatif, ils sont impactés notre environnement.
Mais est-ce que si en les laissant eux-mêmes évaluer leur impact, ça pourrait, puisque chaque entreprise avant de commencer les activités, vous présentez d'abord un document porté sur l'étude environnementale.
Oui, l'étude d'impact environnemental est là, tout ça, il doit prendre ce document. D'abord, pour installer, il faut l'étude d'impact environnemental.
Okay.
Et comme je vous ai si bien dit, l'éthique environnementale, c'est une question de responsabilité. Pourquoi j'ai dit qu'eux-mêmes n'ont qu'à évoluer? C'est une question de responsabilité.
Oui, oui.
Parce qu'il faut que les gens soient responsables.
Ouais.
L'État ne peut pas tout faire à notre place.
Ouais.
L'État ne peut pas courir de les entreprises. Arrêtez ça.
C'est que les responsabilités. Comme je dirais qu'être conscient de son ignorance, c'est le début de ton savoir.
Parce que c'est une question, l'éthique environnementale, une question de responsabilité.
Okay.
Parce qu'il faut que les entreprises soient eux-mêmes responsables. Parce que si tu n'es pas responsable, quelqu'un ne viendra à ta place pour dire fais ça.
Ouais.
C'est pourquoi l'État vient nous donner la liberté. Maintenant, si maintenant, il ne peut pas le faire, l'État viendra maintenant, il y a des mesures qu'on va mettre en place. Ouais. Mais il faut que d'abord les entreprises eux-mêmes puissent évaluer leur propre impact d'abord. Ouais. Et c'est une question de responsabilité. Et lorsqu'ils évaluent leur propre impact, ils sauront qu'ils sont en face là, ce qu'ils sont en fait à la nature. Ouais. Et eux-mêmes prendront les mesures qu'il faut. Ouais. C'est vrai, dans le livre, il y a une partie dans le livre qui parle de ça. Ouais. C'est une question de responsabilité.
Okay. Alors, dans le cas où eux-mêmes n'arrivent pas à évaluer leur propre impact, qu'est-ce que l'État doit faire, puisque c'est l'État qui est chargé de réglementer toutes ces exploitations minières et industrielles en Guinée?
Oui, mais déjà, le ministère de l'Environnement, c'est pas spécifique. Je pense que beaucoup d'entreprises ont compris.
Okay.
Et à travers l'Agence Guinée d'évaluation environnementale qui fait les évaluations,
oui,
beaucoup ont compris. Parce que tu n'as pas venu t'installer dans un pays comme ça sans faire l'étude d'impact environnemental.
Mm-hmm.
Donc, beaucoup ont compris. Et quand on partait, la plupart ont les PGS, les permis de gestion environnementale et sociale. Okay. Donc, ils le suivent. Et dans ça, il y a une partie de l'éthique environnementale qui est dedans. Okay. Parce que c'est une question de responsabilité.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan social? Qu'est-ce que vous faites sur le plan économique? Qu'est-ce que vous faites sur la protection de l'environnement? C'est la biodiversité, tout est dedans. Donc, ils le savent déjà.
Alors, votre ouvrage, l'éthique environnementale en Guinée, comprendre pour mieux protéger la nature. Oui. L'ouvrage aborde-t-il la question des communautés locales et comment leur participation peut-elle devenir un pilier de la gestion durable?
D'abord, c'est l'implication, c'est d'impliquer
les communautés. Okay.
Parce que je dis toujours, tant que nous faisons des choses,
okay,
tant que nous faisons toute activité, ça soit une activité de reboisement, ça soit une activité de sensibilisation, ça soit une activité de ramassage d'ordures, tant que la population n'est pas impliquée, ça ne marchera pas. Parce que c'est eux-mêmes qui sont au cœur.
Ouais.
C'est eux-mêmes le fait pour nos populations. C'est eux-mêmes qui sont le cœur.
C'est eux qui produisent les ordures. C'est eux qui détruisent les forêts.
C'est eux-mêmes qui sont le cœur.
En tout cas, c'est, il faut les impliquer.
S'ils sont impliqués, okay, ils sont sensibilisés, ils vont prendre soin. Ouais. Et ça, le Guinéen n'est pas difficile. En Guinée, chez nous, en Guinée, ils ne sont pas compliqués.
Ouais.
Le Guinéen, quand il le parle doucement, il le explique avec les preuves, il va comprendre.
Ouais.
Et il est plus facile chez nous. Le Guinéen est plus docile. Et quand nous expliquons très bien à nos parents, on les explique, voilà les effets, voilà les conséquences, ils comprendront, ils vont le comprendre.
Ouais.
C'est pourquoi il faut impliquer les populations. Et lorsque vous impliquez les populations, quand ils sont sensibles, ils prennent conscience, et même ils vont préserver notre nature. Ils prendront soin de ça.
Est-ce que le ministère de l'Environnement a un schéma d'implication des communautés dans le cadre de la préservation de l'environnement, que ce soit, on a parlé du reboisement, que ce soit de l'assainissement, de la lutte contre les plastiques, la lutte contre les eaux usées, les huiles usées, tout cela. Est-ce que le département ou bien l'État a un programme de sensibilisation, d'éducation des citoyens?
Effectivement, nous avons ça. Et quand on est dans notre PAO, notre plan annuel de travail, notre PAO de l'année, c'est dans notre PAO.
Okay.
Et à travers le service de communication, fait 2 mois, 6 mois, le service de communication de notre ministère a fait passer beaucoup de spots à la radio pour sensibiliser nos populations sur la gestion des ordures.
Okay.
Et nous avons le plus avec nous. Si vous voulez venir au ministère de l'Environnement, vous allez voir tous ces épreuves, vous allez voir les vidéos, vous allez même voir les spots avec nous. Et on a fait un beau temps pendant plus de 1 mois en train de sensibiliser. Et le ministère de l'Environnement continue toujours à sensibiliser à l'intérieur, à travers nos services qui sont à l'intérieur, nos sensibilisations toujours de nos populations.
Ok. Voilà, mais malheureusement au ministère de l'Environnement, il est très difficile d'avoir des cadres comme vous qui viennent pour expliquer leur domaine de compétences. C'est très difficile puisque nous battons chaque fois. On nous a dit d'envoyer des lettres de partenariat, on en a fait, mais c'est difficile quand même. Il faut qu'on passe par vous pour sensibiliser les cadres. À faire, puisque ça fait partie la communication, si vous ne communiquez pas sur votre domaine, ça serait très difficile pour les citoyens de comprendre ce que vous faites. Mais en passant dans les médias, comme vous venez de dire, si le département met dans son projet la vulgarisation de tous les textes environnementaux qui sont déjà adoptés, validés avec les textes d'application, si le département se met à vulgariser, je pense que on aura moins d'impact des risques liés à l'environnement. Alors, monsieur le directeur, quelles réformes institutionnelles, comme je viens de dire, pourraient permettre une meilleure gouvernance environnementale dans notre pays?
D'abord, nous avons, comme vous avez si bien dit, nous avons besoin d'institutions mieux coordonnées.
Okay.
Et les lois réellement appliquées et les mécanismes de contrôle indépendants. Cela nous permet de renforcer Cela vous permet de renforcer toutes les agences environnementales et de doter nos collectivités des moyens concrets. Alors. Et instaurer plus de transparence dans les contrats serait très important. Donc, avec ça...
Vous avez parlé de l'application de la loi. Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer les lois? Puisqu'il y a assez de lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment mettre en application de ces lois?
Bon, tout ça là, c'est la communication. Okay. C'est la sensibilisation. Okay. C'est peut-être pour appliquer une loi, c'est pas la force. C'est pas la force. C'est faut sensibiliser. Il faut sens, parce que ça ne sert à rien de forcer quelqu'un. Ouais. Mais à travers la sensibilisation, la communication, les spots, ouais. et faire des sketchs, des théâtres, ouais. des émissions radio-télévisées, des débats, ouais. ça permettra de quoi ça changer les mentalités.
Il faut que la direction de communication du département bouge pour faire beaucoup de créativité, créer des textes de sensibilisation, des visuels, permettant aux citoyens de comprendre réellement l'éthique environnementale, oui.
Oui, effectivement, nous sommes dans des... Comme je dis, l'éthique est encore nouvelle encore. Okay. C'est une discipline qui est encore nouvelle.
Tout à fait.
Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est encore nouvelle encore.
Comme l'ouvrage est venu du département de l'environnement,
oui, effectivement.
Ça permettra de faire la...
Déjà, c'est bon. Déjà, la madame la ministre, elle-même, elle a beaucoup apprécié le document.
Okay.
Déjà, si la première responsable... apprécié d'avoir un document déjà.
Oui.
Déjà,
ça, c'est un atout.
C'est un atout déjà.
C'est un atout.
Elle-même, elle a apprécié le document.
Oui.
Et tous les cadres, même après le chef de cabinet.
Mais il faut un accompagnement pour que l'Armatan puisse vraiment éditer beaucoup d'exemplaires et ça puisse être partagé. Puisque quand on prend le coût de cet ouvrage,
c'est 200 000 francs guinéens.
200 000 francs guinéens, ce n'est pas facile pour un élève ou bien un étudiant d'acheter ce livre-là. Mais si l'État met les moyens à disposition, et que l'Armatan puisse imprimer comme on a fait au niveau de la Constitution, qu'on puisse partager ces genres de livres, puisque c'est des livres éducatifs, ça permettrait vraiment davantage de comprendre le concept éthique environnemental.
Oui, c'est ce combat, c'est pourquoi je suis là, déjà c'est ce combat, et parce que mon souhait le plus ardent, que l'éthique environnementale soit dans nos curricula.
Tout à fait.
C'est ça le souhait important, parce que c'est encore nouvelle encore. Okay. Quand vous partez dans beaucoup d'universités, comme je dis, au Sénégal, au Bénin, on achète l'éthique environnementale, c'est un module à part.
Oui.
Et moi, je suis.
Mais vous pouvez plaider auprès de la commission développement durable du CNT, puisqu'il y a une commission chargée de l'environnement et autres questions. Et vous pouvez venir avec votre ouvrage plaider pour que cet ouvrage-là soit mis dans les programmes de vulgarisation, dans les programmes d'éducation. À travers leur plaidoyer, ça va encore davantage donner un coup de force à cet ouvrage. Alors, Monsieur Doré, nous sommes vers la fin de l'émission. Quelles sont les recommandations clés de l'ouvrage pour bâtir une Guinée écologique responsable et d'ici les prochaines décennies?
Ok, il y a plusieurs recommandations, mais je vais résumer mes recommandations en trois parties essentielles.
Okay.
La première, c'est adopter une vision nationale claire sur l'utilisation durable de nos ressources.
Okay.
Et la deuxième, c'est impliquer toutes les parties prenantes.
C'est-à-dire adopter une vision nationale claire, c'est-à-dire créer des lois, élaborer des lois ou bien qu'est-ce qu'il faut?
Oui, vision claire. Dans la vision claire, c'est de voir où on veut aller.
Ok. Il faut avoir une direction.
Une direction claire. C'est l'utilisation durable de nos ressources.
Okay.
Où on veut aller.
Okay.
Et la deuxième, c'est impliquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'État, les citoyens, en passant par les entreprises et les communautés.
Okay.
Et la troisième, c'est investir dans l'éducation et l'innovation. Comme je disais, l'éducation et l'innovation. Tout ce que nous faisons, c'est l'éducation.
Okay.
Si nous commençons l'éthique environnementale à la base, nos enfants d'aujourd'hui et demain seront formés pour ceux qui viendront demain aussi. Parce que dédiquer l'éthique environnementale, c'est pour la génération future.
Oui.
Nous préparons pour nos enfants de demain, pas pour nous, mais pour ceux de demain.
Oui.
C'est ça la force de l'éthique environnementale.
Mmh.
Elle parle d'aujourd'hui et de demain.
Okay.
Et pour la génération future.
Okay.
Donc ce sont ces trois recommandations qui résument votre question.
Alors, pour terminer, quel est votre dernier message?
Bon, mon dernier message d'abord, premièrement, c'est de remercier les autorités de la place.
Okay.
Et il faut savoir que l'État guinéen connaît l'enjeu de l'environnement.
Mmh.
Et quand vous rentrez dans notre constitution,
mmh.
c'est pris en compte. La protection de l'environnement est prise en compte.
Oui.
Parce que les autorités sont conscientes de la protection de l'environnement. Et aussi, je suis remercier le ministère de l'Environnement qui est en train de se battre de ce côté pour la préservation de la nature. Et l'appel que je peux lancer à chacun de nous, à tous les Guinéens, c'est de comprendre que cette éthique environnementale, elle est nouvelle. Et que chacun de nous peut prendre conscience de protéger notre environnement. Okay. Et cette éthique environnementale, c'est une question de responsabilité.
Ouais.
Quelle est notre responsabilité envers nos eaux? Quelle est notre responsabilité envers nos rivières? Quelle est notre responsabilité envers nos montagnes? C'est cette question que l'éthique nous rappelle.
Okay.
Et nous devons être responsables de la gestion des ressources.
Okay.
Et en gérant ça, il faut la gérer dans la justice, dans la transparence. Et quand nos ressources sont gérées dans la transparence, ça peut développer notre pays. Et chacun va comprendre que vraiment que les ressources sont utilisées dans la transparence. Et avoir un cœur éthique, ça veut dire l'amour de la nature.
Oui. Voilà, aimables auditeurs, ainsi s'achève cette édition de Mon Environnement consacrée au thème majeur de l'éthique environnementale en Guinée. Au cours de cette émission, notre invité, M. Doré Dionga, il est DGA du BSD au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, nous a permis de mieux comprendre les enjeux moraux qui entourent la gestion de nos ressources naturel, les défis auxquels le pays fait face et les responsabilités qui incombent à chacun des décideurs, collectivités, entreprises et citoyens. Nous retenons que l'éthique environnementale n'est pas un concept abstrait, mais un véritable outil de gouvernance, capable d'influencer les politiques publiques, de guider les pratiques industrielles, de renforcer le rôle des communautés locales et d'alimenter une conscience écologique nationale. Les recommandations issues de son ouvrage tracent une voie claire vers une Guinée plus responsable, plus durable et mieux préparée aux défis des prochaines décennies. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à la radio parlementaire 107.5 FM. Merci également à notre cher invité pour la qualité de ses analyses. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à l'environnement et au développement durable. À la technique, Daouda Sangaré au micro pour la présentation Sano Sekou. Très bonne suite des programmes sur la 107.5 FM, la voix du parlementaire.